I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Bon matin et bienvenue dans la saison 3 de Fais-tu frette. Déjà la saison 3. Quand je pense que lorsque j'ai commencé, on me disait que ce concept manquait peut-être un petit peu de profondeur et que je risquais de vite me retrouver à court de sujets, et bah pour le coup, j'en connais qui se sont mis une sacrée bûche dans l'œil. C'est que mine de rien, la culture québécoise est infiniment plus riche que ce que la seule démographie de la province peut laisser penser. La société québécoise, parce que multidimensionnelle, est aussi incroyablement plus complexe que tout ce qu'on peut imaginer. Alors vous savez quoi les amis, de vous à moi, vous pouvez encore vous attendre à quelques saisons en plus de Fais-tu frette. Mon nom est Jean-Michel Lhomme et avec ce podcast je suis vraiment, mais alors vraiment heureux de vous faire découvrir mon nouveau chez-moi, le Québec. Bonne écoute! Pas de chicane dans la cabane, cela pourrait être la devise du Québec, tant ce pays est en recherche permanente de consensus, quitte à éluder les sujets ou à repousser au calende grec la moindre décision qui pourrait fâcher. Et je vous assure que pour un Français, dont la tendance naturelle est de vouloir lancer une révolution à chaque repas de famille, le détachement, disons-le comme ça, le détachement québécois est quelque peu surprenant. Mais pourtant, ici, il y a bien un sujet qui est susceptible de transformer le poulet du dimanche en zone de guerre intrafamiliale. C'est celui de la langue. Dès qu'on parle du français, de sa dynamique, de son niveau, de la place de l'anglais au Québec, cela monte tout de suite dans les tours. On en arriverait presque à s'envoyer des grandes baffes à coups de poisson plus ou moins frais, comme dans Astérix, dites donc. Pour expliquer cette susceptibilité, à fleur de peau, j'ai pris l'habitude de comparer le Québec avec le village gaulois d'Astérix. Un petit village cerné de divisions romaines, comme les 8 millions de francophones québécois sont cernés par 360 millions d'anglophones. Alors, vu le rapport de force quelque peu inégal, on peut comprendre que nos amis gaulois, comme nos cousins québécois, s'embarrassent assez peu de discours protocolaires et une légère tendance à rapidement monter dans les tours, fût-ce de grands tours de bras d'Obélix pour distribuer ça et là quelques baffes pédagogiques. Bref, j'étais assez content de mon allégorie, alors vous comprendrez ma surprise quand, au détour d'un rayonnage de librairie, je suis tombé sur Astérix chez les Québécois. Par tout Atis, moi qui pensais avoir tous les albums, j'avais raté celui-là. Sauf qu'à y regarder de plus près, c'est pas vraiment un album classique. Certes, il en a le format, la reliure et le style, mais il s'agit en fait d'un livre qui retrace l'histoire et la place prise au fil du temps par le petit Gaulois au Québec. Et canneberge sur ma poutine, l'auteur de l'ouvrage ne m'était pas totalement inconnu. Du tout même, car c'est Tristan Demers qui signe ce livre, le même Tristan Demers qui, à l'occasion d'un autre de ses ouvrages, nous avait parlé du Québec des années 80. En lisant Astérix chez les Québécois, j'ai vraiment appris énormément de choses sur l'histoire moderne du Québec. D'évidence, la résistance de ce village gaulois a ici eu une résonance vraiment particulière. Alors, pour jaser aujourd'hui, devinez donc qui j'ai invité. Salut Tristan.
Salut, merci de m'accueillir.
avec grand plaisir. Je te le disais en off, mais c'est vrai que ce livre, il m'a surpris. Je ne m'attendais pas à en apprendre autant. Avant d'être une mine d'infos, c'est d'abord une déclaration d'amour. Cela représente quoi pour toi, Astérix et Obélix?
C'est vrai que c'est une déclaration d'amour pour Astérix, bien sûr, qui a construit le BDiste que je suis devenu, parce que, évidemment, je lisais, j'avais eu l'occasion de rencontrer aussi en 91, ou même à deux reprises, je crois, Uderzo, à Montréal, lors d'un tournage, on avait discuté, même pris un verre ensemble à l'hôtel, je me souviens, dans le hall d'entrée de l'hôtel sur Sherbrooke. Donc oui, il y a ça, c'est aussi une déclaration d'amour pour mon Québec, qui même avec ses défauts et ses ambiguïtés, ses contradictions, fait partie de... Ben oui, parce que je suis d'abord québécois, francophone, et puis c'est vrai qu'on se compare souvent, on le dit, je le dis dans le livre aussi, à quel point on se définit comme étant ce village gaulois d'Amérique qui est dans le combat de résistance culturelle et politique. Alors, comme j'aime l'histoire, avec un grand H, mais aussi l'histoire culturelle et la culture populaire des dernières décennies, j'avais envie de mixer tout ça, mon amour pour la BD, pour Astérix, et puis bon. En fait, c'est parce que ça fait longtemps qu'on entend dire ça. Oh, on est des Gaulois d'Amérique au Québec. Mmh. Et je trouve que je me suis rendu compte que personne n'avait mesuré, l'avait fouillé, avait été au-delà de la rhétorique ou de la blagounette. Fait que c'est ce que j'ai voulu faire avec ce livre-là, qui m'a demandé un bon 2 ans et demi de boulot, là, quand même, qui est paru il y a 5 ans. Hein, c'est pas.
Oui, c'est ça. Déjà, c'est super sympa de répondre à mes questions aujourd'hui, parce que ça fait un petit bout de temps quand même que tu l'as écrit.
Non, mais c'est bien de revisiter un vieux... une nouveauté qui en est plus une. Mais c'est la preuve, si tu me dis que tu es tombé dessus par hasard et que tu aimais ça, c'est la preuve que le livre traverse le temps un peu et que c'est pas l'effet d'un 6 mois de promo, là, tu vois.
Oui, puis en plus, il est... Il est très surprenant pour moi qui suis français. Évidemment, j'adore Astérix et Obélix, j'ai tous les albums et j'ai été bercé avec ça. Mais pour moi, Astérix et Obélix, c'est de la culture populaire française. C'est de la blagounette, évidemment. Mais toi, dans Astérix et Obélix, j'étais habitué à retrouver Guilux, les animateurs télé. Enfin voilà, il y avait plein de petites références très culturelles françaises. Mais pour moi, c'est très franco-français, quoi. Wow, c'est léger. C'est léger, c'est de la blagounette. Quand je dis blagounette, c'est pas du tout un jugement négatif. Hein, je suis assez amoureux aussi.
Mais c'est d'autodérision aussi.
C'est ça, exactement.
Les fous dans Astérix. Moi, j'ai maintenant un pied à terre en France et je mesure que c'est bien vrai que l'administration française avec toute sa hiérarchie qui nous est surprenante. Tu vois, hier, on était quoi, jeudi, j'avais un problème, j'avais une question avec Poste Canada. J'ai appelé, il était 22h10, on m'a répondu immédiatement. On a réglé mon problème en 10 minutes, en 8 minutes, quoi. Impossible de faire un appel à 11h le soir, en pleine semaine, dans un bureau administratif de Poste France, ou je ne sais trop, tu vois. Alors, on a un regard extérieur, on n'a pas vu ce que tu as vu. La maison des fous, on peut pas se l'approprier puisque notre système tourne autour de l'expérience client beaucoup plus que de l'administration lourde ou en vase non communicant comme les Français où tout est plus procédurier, je le dis avec plein de d'affection, mais je pense que même les Français le savent eux-mêmes, là, c'est pas une surprise. Alors on ne voyait pas dans Astérix ce que les Français voyaient. On voyait autre chose, nous. Parce que ça faisait écho à notre réalité.
Et c'est ça qui m'a vraiment surpris, c'est que j'ai eu l'impression, en lisant ton livre, enfin, plus que l'impression, que vraiment le rôle, l'impact d'Astérix et Obélix ici a pris une dimension, je veux dire, supérieure, autre, presque, j'allais dire presque plus importante au sens de la société. J'entends, c'est-à-dire que il y a quelque chose d'identitaire, il y a une identification. C'est paradoxal, j'ai l'impression que les Québécois, en lisant ton livre, hein, que les Québécois s'identifient plus au village gaulois
que les Français.
Que les Français.
Mais peut-être parce que nous, on n'a pas complètement, On est comme des adolescents, on se cherche encore, on cherche les clés pour se définir, on est dans un carcan qui tantôt nous plaît, tantôt nous déplaît, je parle de la Fédération canadienne et tout ça. Mm-hmm. Donc, c'est un peu ça aussi, tu sais, il y a quelque chose de, même le principe de la laïcité, on est encore dans le débat, alors que c'est établi en France depuis, bon, nous, il y a à peine 40 ans, je veux dire, moi, j'avais des cours de catéchèse, j'allais à l'école à Montréal, donc j'étais dans une commission scolaire qu'on appelait la CECM, la Commission des écoles catholiques de Montréal. Je veux dire, on a enlevé il y a 2 ans la croix au-dessus du siège du président de l'Assemblée nationale, quand même, la croix... On avait Jésus au-dessus de nos projets de loi il y a à peine 24 mois ou 48 mois, je ne sais trop. Mais alors, on est encore en espèce de d'auto-définition sociale. Alors, on est un peu... Parce qu'on est jeune. Et c'est peut-être ça le côté très... comment dire? On fait essai-erreur, on se casse la gueule, on recommence. Tu sais, la lourdeur dont je parlais en France sur le plan d'administration, c'est que c'est un vieux pays, donc on étudie beaucoup le pourquoi, du comment, de l'impact d'un truc. Nous, on est beaucoup dans « faisons-le, on verra ensuite ». Je te dis, on a 14 ans. Alors, on a la fougue et le défaut de nos qualités et la qualité des défauts d'un ado. C'est un peu comme si collectivement, on est encore en espèce de recherche identitaire, un peu comme un ado qui est impulsif, qui réussit de bons coups parce qu'il n'a pas peur... De la répercussion d'un geste ou parce qu'il pense à court terme. Alors ça, c'est la fraîcheur. Puis en même temps, on a peur souvent du débat, on voit pas à moyen, long terme, alors que les Français, vous êtes, tu sais, vous sortez, comme tu le disais en préambule, pour un tout et rien. J'étais en France il y a 3 semaines, il y avait 8 grèves en même temps, tu sais, le métro fonctionnait pas. Le train fonctionnait pas, ou le tram à Nice, parce que c'était mardi matin, cette journée-là, il y avait une grève, tu sais. Nous, on a moins ce, tu sais, pour toutes sortes de raisons, on a un passé judéo-chrétien aussi dont je parle dans le livre, qui fait en sorte qu'on essaie de trouver le compromis puis le consensus tout le temps. On est moins dans les extrêmes, c'est pour ça qu'on n'a aucun parti d'extrême droite ou d'extrême gauche qui se traduit en député qui peut faire bouger. Alors ça, c'est la bonne nouvelle, c'est qu'on tombe jamais vraiment dans les extrêmes, parce que dès que ça nous paraît rapidement trop à gauche, trop à droite, trop, tu vois, parce qu'on était habitué à trouver l'espèce de consensus. On n'aime pas la chicane, comme on dit chez nous.
Ouais, c'est ça. Pas de chicane dans la cabane.
Voilà. Mais quand on parle la langue, c'est vrai que ça vient nous chercher.
Ah ouais.
On est susceptible là-dessus.
Moi, sincèrement, depuis que je suis au Québec, j'ai réussi à, je veux dire, presque même, j'ai jamais réussi à avoir un débat un peu politique ou autre chose, quelque chose qui pourrait amener un conflit. Le seul truc sur lequel il y a une réaction épidermique qui s'est passée quelques fois, c'était sur la langue. Je me souviens, la première fois, c'est quand j'ai dit email au téléphone à quelqu'un à qui je parlais.
Plutôt que courriel.
Au lieu de dire courriel. Mais alors que la discussion se passait super bien. Ouais. Tout d'un coup, je me suis fait défoncer. Mais voilà, on sent que c'est quelque chose d'hyper épidermique.
C'est épidermique, oui, parce que on le sait bien que le français qui prend des McNuggets chez McDo, ou un Happy Meal, alors que nous, les mecs croquettes et le joyeux festin. On va pas au car wash, on va au lavoto, on va au dépanneur et non au night shop, et ainsi de suite. Mais le français, même s'il mange des McNuggets et un Happy Meal, il vient de se taper une expérience américaine d'une demi-heure en mangeant dans un McDo. Nous, on est en Amérique. Alors, PFK chez nous, ça faisait KFC chez vous, Kentucky Fried Chicken, on est le seul endroit au monde où Kentucky a accepté d'appeler ça PFK pour poulet frit Kentucky. Mais c'est symbolique, mais à quelque part, c'est plus que ça. C'est une façon pour nous d'affirmer que... Parce que notre langue, elle est fragilisée, alors que le français, il va retourner chez lui puis il reprend son pâté de foie avec son camembert. C'est pas parce que manger des McNuggets qu'il vient de perdre son identité, parce que étant... D'abord en nombre et ensuite parce que vous êtes là depuis des millénaires. Bon, vous avez, c'est ancré, c'est là, c'est bien. On n'est pas dans la perte du français,
la langue en lutte.
En France, qui nous, c'est une question de génération. Je veux dire, si on fait pas attention, on se donne 2 générations, c'est fini, dans 45 ans, on n'est plus là, tu sais. Faut faire attention. Alors, on a cette espèce de réaction, effectivement. Puis, on en parle dans Astérix. Je fais des parallèles.
Mais oui, c'est ça.
Un livre avec plusieurs albums, t'as remarqué?
Oui. Et mais c'est ça le truc, c'est que pour la langue française, le Québec est en lutte. Mm-hmm. C'est une lutte permanente, même une lutte assez vive en ce moment. En France, on n'est pas du tout en lutte. Il peut y avoir deux, trois trucs d'ici là. Enfin, globalement, le français n'est pas à risque en France. Et c'est peut-être pour ça aussi que l'histoire d'Astérix et Obélix résonne à ce point-là au Québec. Parce que la lutte de ce petit village gaulois, qui en France aujourd'hui, on aurait du mal à la comparer à... Alors, peut-être, j'allais dire que des Corses peuvent se sentir... peuvent se retrouver là-dedans, mais globalement, la nation française, non. Alors que la nation québécoise, autour de cette cause identitaire, et principalement celle de la langue, se retrouve parfaitement dans les luttes d'Astérix et Obélix.
De toute façon, quand on entend un Français dire « The Spider-Man », on comprend bien qu'il n'est pas la veille de perdre son français, tu comprends, dans le sens où... Bon.
Mais il se moque, en plus.
Non, mais c'est une boutade, mais tu comprends.
Je comprends bien.
Comme quoi le français s'approprie de façon folklorique, un peu amusante, un truc anglophone, sans pour autant que ça soit incarné, tu sais. Fait qu'il demeure français, tu sais. Nous, on est toujours dans cette espèce de dualité ou de difficulté à... Tu sais, le moindre mouvement d'un côté ou de l'autre, et puis on a toujours à composer avec le fédéral. Le fédéral étant, ou les anglophones étant, c'est romain, en quelque sorte. Puis je le dis sans aucun, moi je suis pro-Québec, pro-français, mais je suis pas... contre l'anglais ni anti-canadien, tu vois. Toute la notion du multiculturalisme aussi, qui est très canadien. Nous, on est plus dans l'inter-ethnique ou l'inter-multiculturel, c'est-à-dire qu'on, pour préserver pour assurer la pérennité de notre langue, on souhaite que les immigrants, par exemple, fassent partie de la grande famille et collectivement puissent participer à la continuité de la francisation, alors que au Canada anglais, où ils ont la même langue que les Américains, que les États-Unis, j'aime bien le préciser, parce que les Américains ont l'impression de... Aux États-Unis, ils ont l'impression de s'approprier l'ensemble de l'Amérique, ça m'énerve un peu, mais bon.
Les mots sont importants, t'as raison.
Alors, ils sont pas dans les mêmes enjeux du tout, même par rapport à la laïcité. Tu sais, il y avait une politicienne à Radio-Canada qui disait récemment, pour les Canadiens anglais, la notion de religion fait partie de l'identité comme la couleur de peau, alors que pour les Québécois, c'est une idée comme une idée politique, un peu extérieure à nous, qu'on s'approprie. On prend une idée en lien avec ce qui est notre Dieu ou ce qui est notre allégeance politique, alors que pour le reste du Canada, c'est lié de façon intrinsèque à l'identitaire, au même titre que la couleur de peau, l'origine. De là, le grand malentendu par rapport à la laïcité, entre autres, mais là, je ne m'improviserai pas politologue, là, c'est pas mon... Mais tu vois, je trouvais ça intéressant quand même. Parle de ça dans Astérix, je parle du devin, c'est notre rapport avec l'étranger qui arrive chez nous. Je parle de la grande traversée, notre rapport avec les peuples autochtones. Je parle de la rose et le glaive, c'est notre rapport avec l'anglais finalement, ou les bretons, excuse-moi, c'est plutôt ça. Bretons.
Qui m'a vraiment surpris, c'est qu'en fait la résonance de toute l'histoire d'Astérix et Obélix, ça, je trouve beaucoup plus de résonance ici qu'en France sur plein d'aspects. Alors que tu le dis très bien, Uderzo et Goscinny, alors ça aurait passé complètement à côté de la casquette. C'était pas du tout le but. C'est pas quelque chose qu'ils ont recherché.
Non. Ne serait-ce que des hasards de sortie d'albums comme Le Grand Fossé qui sort à un mois et demi du référendum de mai 80 sur la souveraineté du Québec. Et nous, on est dans une dualité des oui contre les non. Notre grand village collectif est divisé. C'est exactement ce qui se passe. Alors que l'idée de base, c'était de référer au mur de Berlin et non pas au combat lié à l'indépendance du Québec. Mais c'est comme ça qu'on l'a reçu, nous. Ils étaient en pleine promo à un mois et demi. On avait des affiches du oui, du non. J'avais 9 ans. Même pas, j'avais 7 ans. Je m'en souviens, j'avais la varicelle cette journée-là. Mes parents pleuraient parce qu'ils avaient perdu leur éventuel pays en devenir, alors que moi, je pleurais dans ma chambre, j'avais la varicelle, je faisais de la fièvre. Mais
on pleurait.
Comme on pleurait, pas pour les mêmes raisons. Parce qu'on oublie qu'il y a eu deux référendums, celui de 80 puis de 95. Bref. Mais oui, alors, ces échos-là, on a bien voulu dire ou faire dire ou penser à Astérix ce qu'on voulait en lien avec notre propre combat à nous, tu vois. Mais c'est vrai que c'est ça que je voulais mettre en relief. Tu remarqueras que mon livre, il n'est pas éditorial. C'est-à-dire que, à la limite, tu peux pas savoir où j'ai voté, là, tu sais.
Non.
Moi, je fais des livres J'ai pas la prétention d'être un historien ni un archiviste, mais je crois travailler avec une rigueur journalistique qui me permet de corroborer chacune des... D'ailleurs, à chaque fois que le livre sort, les vrais spécialistes en lien avec la, bon, les sociologues et tout ne m'obstinent jamais sur ni les dates, ni les faits, justement parce que je fais mes devoirs, je fais mon travail. Puis, ce que j'aime, c'est de raconter notre Québec par une autre lunette, qui est dans ce cas-ci celle de la BD. J'avais fait mon livre sur Tintin, j'en ai fait un sur les 50 ans du parc d'attractions La Ronde à Montréal, qui est arrivé avec l'Expo en 67. Ça peut paraître banal, mais c'est notre rapport avec la fête, avec le forain. On est dans le ludique, on n'est pas dans la BD, mais on est quand même dans le parc d'attractions. Je prépare un projet sur Disney pour l'an prochain, qui est dans le même esprit que celui d'Astérix. Les gens vont tomber sur le dos pour ne pas dire autre chose parce que j'ai découvert plein de choses. Mais quel plaisir c'est que de fouiller pendant des heures dans des archives, j'adore ça.
Oui, et puis c'est vraiment une manière d'a... Tu dis, effectivement, t'es pas historien, mais c'est une manière d'apprendre, de revisiter, pour moi, de comprendre, d'apporter une autre lecture à une histoire très contemporaine. Et d'ailleurs, je me demandais, tu le disais à l'instant, la fin du XXe siècle au Québec a été marquée en 80 et en 95 par les référendums sur l'indépendance du Québec. Mmh. À ton avis, parce que tu montres bien la montée en puissance qu'il y a à partir de 68 sur Astérix qui arrive au Québec et qui petit à petit s'implante et s'impose, alors pas forcément de lui-même, mais parce qu'il est repris un peu à droite à gauche.
En même temps, s'impose dans le discours politique. Mouvement nationaliste. D'ailleurs, je fais une parenthèse pour nos amis français qui nous écoutent, parce que chez nous, le nationalisme était porté par un parti de gauche. C'est parce que souvent, on parle de nationalisme. Moi, je suis un nationaliste. Notre premier ministre l'est aussi, le parti au pouvoir au Québec. Mais on n'est pas du tout dans le nationalisme tel qu'on l'entend en France. René Lévesque, et c'est un social-démocrate à l'époque encore plus à gauche que le PQ aujourd'hui. Mais c'est fou quand même, parce que chez nous, c'était de se détacher de l'Empire britannique tel qu'il est, plus à droite que nous, pour se donner les outils nécessaires culturellement pour assurer notre pérennité. Ça n'a rien à voir avec le... Alors, quant au Québec, on dit on est nationaliste, on ne flirte pas avec Le Pen. On n'est pas du tout là-dedans.
Effectivement.
Je me suis bien rendu compte que la résonance n'était pas la même. Le terme nationalisme n'est pas du tout reçu de la même façon en France ou au Québec. Alors, je le précise parce que c'est pas clair des fois quand on...
Ah, mais t'as raison. T'as raison parce qu'effectivement, ça fait partie de ces notions qui sont très différentes ici de ce qu'elles sont en France.
Moi, je t'ai coupé avec ma parenthèse.
Non, mais t'inquiète pas.
Pour le nationalisme et tout, des fois, je me dis, en précisant, ça réguit un peu.
Mais t'as plutôt bien fait parce que ça l'éclaire différemment. Ma question, c'était que, à ton avis, est-ce que l'arrivée d'Astérix et Obélix et de ces histoires de ce petit village qui lutte contre les Romains et qui préserve son indépendance, sa vie et tout. Est-ce que ça a pu nourrir l'envie de nationalisme, du coup, d'indépendance et est-ce que ça a pu faciliter peut-être la tenue des référendums ou non, franchement, c'est capillotracté tiré par les cheveux?
Mais écoute, c'est difficile à mesurer, pour être honnête. Par contre... Il y a encore 3 semaines, je tombe sur Mario Dumont à la télé qui anime des trucs d'affaires publiques, mais qui était jadis chef d'un parti politique.
Tu parles dans le livre.
D'ailleurs. Dont je parle aussi. Et même encore il y a 3 semaines, il parlait du système de santé qui était à retravailler. Et puis, il fait tout de suite un lien. Ça nous prend notre potion magique ou je sais plus, où il a parlé de la maison des fous dans Astérix en parlant du gouvernement qu'on appelle souvent de la machine le mammouth, hein, parce que c'est long, lourd et parce que ça demeure une machine gouvernementale. Alors, ça m'amuse que de voir que maintenant, et c'est peut-être la grande différence avec quand j'étais petit, moi j'ai 50 ans quand même, donc j'ai connu les années 70, 80, 90, où le débat politique chez nous, c'est le débat entre les oui, les non, les rouges, les bleus, et ça remonte à il y a longtemps, ça, parce que même dans le temps de Duplessis, dans les années 50, Duplessis était nationaliste, à l'époque où l'idée de la souveraineté n'avait pas été, bon, installé. Et déjà, à l'époque, le clergé travaillait main dans la main avec le gouvernement. Et ce qui fait que, comme tout le monde devait aller à l'église le dimanche, le député de l'Union nationale, donc de Maurice Duplessis, qui était nationaliste, s'arrangeait avec le curé pour qu'à la fin, il dise aux gens, oubliez pas, l'enfer est rouge, le ciel est bleu. Et bleu, c'est la couleur du parti de l'Union nationale. T'sais. Fait que déjà, on était dans l'ingérence, c'était épouvantable.
Ah oui.
La corruption, la collusion, les effets d'influence, en tout cas. Fin de la parenthèse, mais tout ça pour dire que maintenant, et je le vois, le débat, tout le monde s'entend là-dessus, le débat change. Le débat reprend un axe ou découvre un axe gauche-droite qui est plus près de celle de la régularité de l'ensemble des politiques internationales, alors qu'avant, pendant 50 ans, on était dans ce débat. Quand j'étais petit, on se demandait pas si on était à gauche ou à droite. On voulait savoir si on était souverainiste ou fédéraliste. C'est ça la grande question. Et là, la récupération de l'idée d'être un village gaulois ou du gaulois qui se défend et qui veut trouver son village, machin, était beaucoup plus présente. La nouvelle génération, qui lit Astérix, d'ailleurs Astérix a changé aussi, il y a eu le décès d'Uderzo Goscinny il y a très longtemps, mais on est moins là-dedans. Mes enfants qui lisent Astérix le lisent comme une série ludique. Tu vois? Alors, j'ai l'impression que la nouvelle génération, parce que le débat, l'axe du débat a changé chez nous, cette nouvelle génération-là va lire Astérix pour se détendre et s'amuser, plus près de la façon dont les Français le...
Exactement.
Appropriait la lecture de cette série, tu vois. Fait que j'ai l'impression que ça tend à disparaître. Par contre, on utilise beaucoup l'idée de la potion magique où quand on parle du Gaulois qui se bat, ce n'est plus tant en lien avec le débat souveraineté, machin, c'est en lien avec David contre Goliath, par exemple. Récemment, j'ai entendu quelqu'un parler de potion magique ou du village gaulois en parlant de Netflix et de notre rapport avec Netflix pour le culturel, c'est-à-dire comment préserver nos plateformes francophones pour assurer l'expression de notre culture qui est spécifique et qui est particulière au Québec, parce qu'on a notre star system, contre les géants des plateformes numériques. Fait que tu vois, c'est amusant, parce que là, on n'est plus dans « on se donne-tu un pays ou pas? » On est dans... avec Netflix, on est les Gaulois, il faut se battre. Alors, c'est intéressant. C'est un peu comme si c'était plus tant politique, mais ça demeure identitaire.
C'est ça.
Ce n'est plus en lien avec les gestes d'affirmation politique qui nous mènera à des lois ou à un pays, par exemple. On n'est plus là-dedans. C'est drôle, hein? C'est là, je suis à voix haute, là. Non, en même temps, je te dis que la nouvelle génération s'en sert moins, mais on s'en sert autrement. C'est plus le petit contre le gros. C'est plus le « je veux un pays » contre celui qui veut pas que j'en ai un.
Ouais, on passe presque d'une satire sociale et politique à quelque chose à la fois plus divertissant, mais avec des items qui sont tellement rentrés dans l'univers commun qu'on s'en sert pour alimenter le débat. La potion magique, Panoramix, même les personnages, on va retrouver ici.
Tu sais, quand on dit « il est tombé dedans quand il était petit », ben ça, j'imagine que c'est en France aussi, remarque, parce que...
Ah bah oui.
On se rapproche de la récupération des symboles d'Astérix, on se rapproche de ce que les Français en font, alors qu'avant, on était très distinct de par notre combat politique qui, écoute, en 95... le oui a failli passer à 30 000 voix. 30 000 voix.
C'est rien.
Tu vois, c'est rien. C'est 0,6% exactement. Alors, moi, j'étais de ceux qui ont voté oui, comme beaucoup, comme la moitié des Québécois, ou comme presque 60% des francophones, ou 50 quelques, je sais plus, je sais pas, je retourne dans mes statistiques, mais quand même, tu vois. Fait que, c'est ça qui est fou. Alors, c'est encore là, mais ça n'a plus la même résonance. Tu sais, dans les années 70, on lisait beaucoup Astérix dans les cégeps, les universités, les mouvements plus à gauche, souvent souverainistes, brandissaient Astérix pour s'en inspirer. Dans mon livre, j'ai même retrouvé des des espèces de journaux vendus sous le manteau de groupes, je dirais pas d'extrême gauche, mais plus près du FLQ. Le FLQ a quand même posé des bombes, tué. Oui. Arrêtons de, en tout cas, ça c'est un autre débat, là, mais je trouve que souvent on est nostalgique, les yeux pleins d'eau. Pour le FLQ, pourtant j'étais indépendantiste et puis même René Lévesque était complètement. Non, mais des fois ils font des espèces de documentaires sur le FLQ, le bon vieux temps où on revendiquait à temps, ils posaient des bombes dans les boîtes aux lettres puis ils tuaient des ministres là. Des bon, fait que calmons-nous. Mais fin de mon éditorial. Mais bref, fait que tu vois, c'est drôle, tu sais.
Il y a quelques instants, tu nous parlais du cégep, de l'université dans laquelle les étudiants lisaient Astérix et Obélix. Mais parmi les choses assez cocasses qui, moi, m'ont vraiment surpris, toi, ça a peut-être semblé très naturel, mais qui m'ont vraiment surpris dans le bouquin, j'ai appris que les films d'Astérix et Obélix, enfin, les films tout court, d'ailleurs, pas que cela, mais étaient diffusés dans des paroisses. Dans des salles paroissiales. Ah ben oui. Il y a une photo dans ton bouquin qui est dingue. On voit l'écran, on voit toutes les sièges. Et à droite de l'écran, il y a une croix. À gauche de l'écran, il y a une statue de Jésus.
Oui. Ben oui, parce qu'il faut expliquer le contexte aussi. Ben, on a un passé judéo-chrétien qui est en lien direct avec le fait qu'on a de la difficulté avec le débat, d'ailleurs. Parce que longtemps, on a été culpabilisé par une église catholique très, très présente jusqu'aux années 60. Pour ceux de l'extérieur qui connaissent moins notre période qu'on appelle la Révolution tranquille, ben jusqu'aux années 60, l'éducation et la santé, en fait, toutes les sphères politiques étaient dirigées par le clergé. Alors, on devait être à l'église, on était donc dans l'obligation de donner nos enfants nés hors mariage à l'orphelinat. C'était terrible. D'ailleurs, il y a eu des procès là-dessus. Il y a eu plein de choses rétroactivement là, qui se sont engagées. Et en 1927, il y a eu un feu très important au cinéma Le Laurier Palace sur la rue Sainte-Catherine-Est à Montréal, qui a fait plus de 70 enfants morts, donc plus de 70 décès d'enfants. Parce que le gouvernement d'Alexandre Taschereau, à ce moment-là, a passé une loi avec l'Église qui était, plutôt que de passer de loi pour obliger des sorties de secours adéquates et empêcher les gens de fumer dans un cinéma à l'époque où la pellicule était très inflammable, ils ont décidé que finalement, en bas de 16 ans, aller au cinéma, c'était dangereux. Alors, ils ont installé ça. Et tu sais combien de temps a duré cette loi-là? Elle a été installée en 1928 jusqu'en 1966. Pendant 40 ans, non, mais c'est absurde. Pendant 40 ans, on ne pouvait pas, si on avait moins de 16 ans, aller au cinéma, même accompagné des parents. D'ailleurs, il y a eu des moyens de pression en 1938 de la part des parents qui ont manifesté devant le Parlement à Québec pour obliger le gouvernement à ce moment-ci, c'était Duplessis, d'alléger la loi parce qu'on ne pouvait pas aller voir Blanche-Neige. On était le seul endroit en Occident où un enfant ne pouvait pas aller voir Blanche-Neige au cinéma. Ça permettait quoi? D'avoir un contrôle sur ce que l'enfant voyait. Ça permettait, donc ça obligeait, oui, on pouvait voir le film, mais il fallait le voir dans un sous-sol d'église ou en milieu scolaire en classe. Mais qui dirigeait les classes? C'est les frères et les sœurs des congrégations religieuses qui enseignaient aux enfants jusqu'à la Révolution tranquille. Fait que ça permettait un contrôle total. Je suis même déjà tombé sur une... J'ai mis la main sur une entrevue de fond qu'a fait Maurice Duplessis au moment où une commission d'enquête a évalué la pertinence que les enfants puissent voir Blanche-Neige. Et puis lui, il a dit qu'en tant que gouvernement, ce qu'il devait, c'était préserver l'intégrité physique et morale de nos jeunes chrétiens, catholiques, et qu'à ce moment-là, il fallait s'assurer que les projections se fassent sous les auspices des communautés religieuses. Alors, tout ça pour dire que le premier Astérix arrive au moment où la loi vient d'être débarrée, là, parce que c'est en 66, puis Astérix chez les Gaulois, Astérix le Gaulois, le premier dessin animé, c'est en quoi, 65, 66?
Je crois que dans le bouquin, tu parles de 68.
Le 68, c'est pas plutôt Astérix et Cléopâtre?
C'est toi l'expert, je vais pas trop prendre le mot, mais j'avais ça en tête.
Attends, je vais aller voir pour le fun, film tout en jasant, Astérix, le Gaulois, vive Internet.
C'est assez pratique, cette petite chose, quand même.
Oui, c'est aussi machiavélique par moment, mais...
pratique, mais machiavélique, ça, on est bien d'accord.
Oui, mais voilà. Alors, c'est 900, t'as raison, 67, c'est 67. 68, c'est l'autre.
OK.
C'est Cléopâtre. Bon, tu vois, Astérix sort chez nous, là.
Juste à ce moment-là.
On a le droit d'aller au cinéma. Pas compliqué, là. Donc, c'est encore fragile, tu sais. Et puis là, arrivent tous ces films un peu de fesses québécois coquins, très mauvais.
One size fits all seemed like a good idea for clothes.
Nice dress. It's a t-shirt.
Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why UnitedHealthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about UnitedHealthcare coverage at UH1.com. That's UH1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Oui, mais bon.
Parce que nous, on interdisait là, les films avec Catherine Deneuve, là, c'était... puis Brigitte Bardot, là, c'était interdit.
Ah oui? Oui,
par l'église. Ben, Brigitte Bardot et Dieu créa la femme, c'était en 60, c'était avant la fin de l'embargo là, chez nous. Fait que c'était coupé par le... Comprends-tu?
Ah oui, ben je comprends bien.
Dans nos versions, là, Brigitte Bardot avait quasiment un col roulé. Tu sais. Mais c'est pour ça, que notre rapport avec la religion, pourquoi on sacre chez nous? Pourquoi on jure avec des mots d'église? Mais c'est quand on comprend notre histoire, c'était une bouffée d'air frais que d'être capable de nommer un mot d'église, parce que l'église était tellement... Mais ça n'a pas de sens d'avoir été... Ça, quand tu y penses, là, c'était interdit par la loi d'aller voir Tintin des Oranges Bleues en salle. Tu sais, quand tu y penses, ça n'a pas de sens. C'est
ça n'a pas de sens, exactement.
Ça n'a aucun sens. Mais c'était pas tant qu'il y avait, parce qu'il y avait vraiment, mais vraiment rien de coquin dans un Tintin. Mais c'est vraiment, c'était pour s'assurer que ça soit le clergé qui décide de ce qu'on voit. C'est vraiment ça. C'est une question de pouvoir. Donc, ça a moins touché Astérix parce qu'Astérix arrivait dans les années 60 et surtout 70 où on se libérait. Mais Tintin, par contre, c'était autre chose. Écoute, Tintin, c'était approuvé par le clergé parce qu'il n'y a rien qui dépassait là-dedans. Puis il a d'ailleurs failli se faire un film. Hein, la suite de Tintin et les Oranges Bleues devait s'appeler Tintin et la passerelle du cosmos. Ça devait être tourné à Montréal en 66.
Ah oui, c'est...
Beau comédien dont le tiers de la distribution était québécoise. Finalement, Hergé a proposé un scénario coécrit avec Greg, qui a été refusé par l'ONF, qui co-finançait avec France Film le film, parce qu'ils voulaient absolument qu'on célèbre la Fédération canadienne là-dedans. Et comme on était dans un débat identitaire, on était à 10 mois du Vive le Québec libre aussi de Gaulle.
De Gaulle,
la chicane a pogné, puis finalement, le film s'est jamais fait, tu sais. Puis le scénario était très pourri. Là, il y avait de la cabane à sucre, puis de la motoneige en masse, puis de la chemise à carreaux, puis du trappeur.
Ce genre de film de commandite, c'est rarement très bon. Quoi.
Voilà, exactement. En tout cas, fin de la longue parenthèse, mais je fais un lien parce que Astérix arrive au bon moment.
Oui, c'est ça. Et ça explique peut-être la résonance incroyable.
Oui, mais c'est fou notre rapport avec le. Alors là, pour la première fois, on pouvait en famille le samedi aller en salle dans un grand cinéma voir un film d'Astérix, alors que un an et demi avant, c'était
forcément
presque. Je veux dire, ça devait se projeter ici et là parce que bon, la Révolution tranquille, c'est pas faite entre le mardi puis le mardi soir puis le mercredi matin. Il y avait comme un lâcher-prise de la part du gouvernement. Aussi, on n'était plus dans l'époque de l'Union nationale. Donc, j'ai l'impression que ça jouait ici et là. Mais au niveau de la loi, cette espèce de bouffée d'air frais est arrivée un an avant la sortie d'Astérix, le Gaulois. Tout simplement, c'est fou. Hein.
C'est complètement fou, mais c'est ça qui est vraiment bien dans le livre, à quel point, en fait, chaque moment de la vie d'Astérix, ça arrive vraiment à le faire rebondir avec la vie et l'histoire contemporaine des Québécois. Tu sais, d'ailleurs, pour l'anecdote, pour la seule et unique fois, c'est dans ton livre que j'ai découvert ce qui semble être la devise du Québec en complet. Pour moi, la devise du Québec, depuis que je suis ici, c'est « je me souviens ». C'est écrit sur toutes les plaques d'immatriculation et ça s'arrête là. Ouais. Et dans ton livre, tu me cites la devise en anglais.
Plus, mais la rose sous le
je me souviens que né sous le lys, je crois sous la rose.
Ouais,
la rose. Je me souviens que né sous la royauté française, je crois sous la royauté anglaise. Tu sais que je l'ai retrouvé. Je l'avais cherché, mais je ne trouvais nulle part. C'est dans ton livre pour alimenter cette histoire d'Astérix et ce rapport avec les Anglais, avec les Français, avec la recherche identitaire, ce moment de la Révolution tranquille.
Notre rapport avec l'argent aussi, notre rapport avec le mérite. Notre rapport avec le mérite puis l'argent est complètement différent, justement parce qu'on vient de cette époque judéo-chrétienne. La nouvelle génération se décomplexe par rapport à ça. Mais tu vois, dans Obélix et compagnie, ou dans Astérix et le chaudron, ça nous ramène à notre rapport avec l'argent, puis au mérite d'en gagner, notre rapport, justement, parce que c'était l'avarice, c'était un des sept péchés capitaux. Tu sais, d'ailleurs, c'est drôle, je fais une parenthèse mais amusante. L'Oréal, les produits de maquillage de L'Oréal avait compris ça dans les années 80. Ils s'adressaient aux Françaises en disant dans leur pub « parce que je le vaux bien », alors qu'au Québec, la pub, c'était « parce que je le mérite bien ». Parce que pour s'acheter du maquillage, la femme ait l'impression de le mériter ici. On est encore dans cette espèce de culpabilité, alors que la Française sait qu'elle le vaut. Elle vaut bien être jolie. Nous, faut qu'on le mérite à quelque part. Parce qu'on a travaillé fort, tu comprends? Là, on n'est plus là-dedans. Ouais. On parle des années 80, ça fait 40 ans. Mais j'avais lu ça dans un truc sur la pub. Je me disais, oh, ils savent lire collectivement notre ADN social.
Oui, c'est ça.
Au point d'adapter. Mais ça veut dire beaucoup. Pourquoi la Française le vaut et que la Québécoise, elle doit le mériter?
C'est énorme. C'est fou. Hein? Ben, tu vois, puisqu'on est sur la publicité, excellente transition. Parmi les multiples choses étranges et on va dire un petit peu plus légères que tu cites dans le film, la publicité, et moi je suis publicitaire à la base, donc ça me parle. Et alors j'ai découvert que Obélix, par rapport à l'argent et de la société qui évolue et tout, est devenu l'icône publicitaire de Coca-Cola Diet, Coca-Cola Light pour mes amis français.
Avec Céline.
Avec Céline, c'est ça. Alors, il y avait plein d'autres stars québécoises, alors moins connues en France, mais des joueurs de hockey, tout ça et tout. Mais il y avait aussi Céline Dion. Voilà.
Est-ce que tu as été sur YouTube voir la pub avec Céline Dion qui chante et Obélix? Faut que tu ailles voir ça.
Ah non, je n'ai pas vu.
Va sur YouTube, tape Coke Diet Obélix, Coke Diet Céline et Obélix. Elle chante le goût avant tout. C'est très drôle. Et tu as Obélix n'est jamais, parce que René Angélil s'était bien assuré qu'Obélix ne soit jamais dans le même cadre que Céline. Donc, Obélix, il a sa roulotte. Céline boit du coke, fait son spectacle. Et Obélix, c'est l'éclairagiste, c'est le technicien du show de Céline, mais ils ne sont jamais ensemble dans l'écran parce qu'il voulait préserver Céline de façon à ce qu'elle puisse avoir d'autres contrats de porte-parole. En fait, elle est le porte-parole de coke. Il y avait une stratégie là-dedans pour qu'elle puisse aussi vendre des voitures de marque Chrysler à l'époque, marque américaine. Bref, mais c'est très drôle. Il y a plein de pubs avec Obélix puis Céline.
Mais tu vois, c'est Obélix pour Coca-Cola Diet. Alors déjà, excuse-moi, mais l'association entre les deux, pour le publicitaire je suis, n'est pas d'une limpidité totale.
Ouais. C'est un gag, c'est-à-dire que c'est tellement grossier. On comprend que c'est parce qu'il dit toujours qu'il est pas gros, je sais pas, ils ont dû faire un mieux.
Exactement. Mais je trouve que ça en dit long quand même sur la société québécoise de l'époque, son rapport et de l'importance qu'avaient pris Astérix et Obélix à ce moment-là. À la même époque, le concurrent Pepsi aux États-Unis et partout dans le monde fait ses pubs avec Michael Jackson.
Exactement.
Et au final, il perdra d'ailleurs ses cheveux. Ici, c'est
Obélix. On prend deux icônes. On prend une icône française, une icône québécoise liée à un produit américain. Une icône québécoise qui, à ce moment-là, au début des années 90, sort son premier album en anglais. Alors nous, on a la fierté de voir la fille de Charlemagne, qu'on a vue avec les dents croches signer des autographes dans des centres commerciaux. Moi, je me souviens de Céline Dion qui venait signer au centre d'achat près de chez nous avec 23 personnes en ligne. Et puis, tu comprends, parce qu'elle avait 12 ans, elle vient avec un jumpsuit beige à froufrou. Je veux dire, on est complètement ailleurs. Qui aurait misé sur cette fille au mono sur sourcil? C'était pas gagné d'avance. À la voix d'or, bien sûr. Mais c'est drôle parce qu'il y a la fierté de voir une fille de chez nous qui part de rien, qui va conquérir les États-Unis. On la mixe avec un personnage français qui représente le combat de résistance culturelle. Il y a quelques... Bon, là, je fais un peu de masturbation intellectuelle, là, mais...
Non, mais ça dit quelque chose.
Mais ça dit quelque chose. C'est un peu fort en café que de faire un amalgame puis de résumer ça en une phrase. Mais dans l'espèce d'inconscient, c'est intéressant. On est fiers de Céline... On veut être combatif culturellement, donc notre symbole, c'est le village d'Astérix. En même temps, on s'associe à une marque américaine parce que on veut. En fait, dans toute notre histoire moderne, les Québécois ont voulu être reconnus par le regard des autres. C'est vraiment ce qui. Et maintenant, plus on prend confiance en nous, plus le Québec Inc. s'affirme. Plus on sait qu'on a de la valeur, et peut-être qu'au lieu de le mériter, on le vaut un peu. Tu vois, quand René Lévesque avait dit « on est peut-être quelque chose comme un grand peuple », mais dans cette phrase-là, il y avait « on est peut-être », il y avait quelque chose comme un grand... C'était déjà un pas, mais c'était pas complètement affirmé. René Lévesque n'a pas dit « on était collectivement pas prêt à entendre « on est un grand peuple ». On était peut-être quelque chose comme un grand peuple. Tu sais, on est dans, vois-tu, c'est intéressant de décortiquer. Maintenant, on est capable d'affirmer notre affaire, tu sais. Puis dans le temps, on était gêné de le dire parce qu'encore là, c'est pas très judéo-chrétien que de se vanter.
C'est sûr.
Et plus ça va, moins on trouve que les Français se vantent parce qu'on est capable de savoir la valeur qu'on a. Dans notre regard avec les Français, qu'on trouve souvent, que moi j'aime d'amour, mais qu'on trouve souvent un peu pédant, un peu affirmatif, il y a de la jalousie là-dedans. Parce qu'on a longtemps rêvé d'être capable d'affirmer, comme les Français. À la limite, à tort par moment, c'est pas grave, ça vous permet de faire des pas, de combattre, d'être là, de dire « nous, on vaut ça, on est ça ». Moi, je trouve ça cool. Et là, tranquillement, mon fils et les autres générations se décomplexent un peu là par rapport à ça. Et si on était gêné de se dire qu'on valait peut-être quelque chose comme... un grand peuple, il y a 50 ans, c'est qu'on n'en était pas encore au point où on était capable de l'affirmer, de crier, de dire, ben c'est ça, prenez-nous comme ça, on est ça. Tu sais? Fait que c'est intéressant. Fait que plus on prend de l'affirmation, plus le village gaulois doit toujours évidemment résister, ne serait-ce que démographiquement. On se doit d'assurer notre pérennité en étant plus combatif que jamais, d'autant plus que l'idée de la souveraineté, elle est plus loin qu'avant. Ou plus, on a failli toucher, mais on ne l'a pas eu. Mais là, il faut que le combat se déplace. Moi, je trouve qu'on ne s'est pas donné de grand projet de société de remplacement. On n'a pas substitué l'échec référendaire par un autre grand projet collectif. Bon, il faut qu'on le trouve.
Ouais, pour l'instant, alors là, pour le coup, on s'éloigne un peu d'Astérix, mais je vais donner un peu d'avis personnel. Moi, effectivement, français qui regarde la société québécoise tous les jours et tout ça et tout, je trouve que la société se cherche vraiment.
Oui.
Tu disais tout à l'heure qu'il commence à y avoir une affirmation d'un pôle gauche et d'un pôle droite sur l'échiquier politique. Évidemment, pour avoir été bercé à la politique française, je trouve qu'on en est encore très, très loin. Globalement, tout le monde est au centre.
Il y a tout à coup,
il y a un début de quelque chose, il y a la recherche d'un projet. Et d'ailleurs, on le voit.
Il y a un axe qui n'existait pas, mais il est très. Mais en même temps, on est une société de consensus. C'est pas demain matin qu'on aura des vrais débats à la. Extrême droite et extrême gauche, comme on le voit en France. Tu sais, ce qu'on considère comme très à gauche, c'est Gabriel Nadeau-Dubois, puis très à droite, c'est C'est Éric Duhaime.
C'est Éric Duhaime.
Éric Duhaime, c'est une droite économique, un peu sociale, mais pas du tout. Je veux dire, quand le chef du parti, supposément d'extrême droite, est gay, affirmé, puis que ça dérange personne, je suis pas sûr que ça arriverait ailleurs, dans d'autres... Tu comprends? Mais tant mieux, ça veut dire qu'on a cette ouverture aussi où on se fout un peu de la vie privée de tous et chacun, puis que le débat se concentre sur la politique et les enjeux moins lié à l'orientation ou à l'origine ethnique. T'sais. En tout cas, ça, c'est la bonne nouvelle. Ouais,
mais... Comme quoi, mais ça y a des choses qui avancent. Mais voilà, je trouve qu'on est vraiment dans une de recherche, alors pas identitaire, mais dans une recherche de projet. Voilà, effectivement. Le projet indépendantiste a nourri pendant très longtemps. Il reste quand même encore...
Non, on pouvait être pour ou contre, mais... je vous disais, maintenant, on s'obstine pour savoir si on va faire une rail de tramway. Tu sais, je trouve ça pathétique. Moi, j'ai grandi avec des intellectuels au pouvoir qui se débattaient sur la pertinence d'avoir un pays ou de faire partie d'une fédération. C'était quand même plus grandiose que de faire des référendums, des micro-référendums, à savoir si à Québec, par exemple, on va avoir un tramway sur six rues. C'est, je veux dire,
ça, pour le coup, c'est pas que québécois. Je crois que c'est une tournure un petit peu mondiale.
Ça me rassure.
Dans une période. Oui. Pas sûr que ce soit très rassurant, mais c'est comme ça. Bon, parmi les autres choses qui m'ont vraiment étonné, et tu parlais tout à l'heure de cette volonté d'affirmer, de récupérer des symboles français et tout, le parc Astérix, qu'on connaît bien, nous, qui est à proximité de Paris, là, le parc Astérix a d'abord failli naître au Québec, à Granby.
Oui, à Granby, là où il y a le zoo qui fait rouler la ville depuis plus de 50 ans, je crois. Alors, c'est amusant parce que même non seulement les pourparlers étaient engagés, mais les plans avaient été faits. Je place d'ailleurs un plan là, dans le livre que j'ai retrouvé aux archives de la ville. Et puis, c'est formidable de voir que à deux reprises, on a failli avoir un parc Astérix parce que lorsqu'ils ont vendu la Ronde, qui est le grand parc d'attractions qui a été conçu à l'époque de l'Expo 67, il était deux ou troisième dans la... C'est finalement Six Flags, qui est une entreprise américaine du Texas qui a racheté. C'était presque une vente de feu, c'est un peu triste. Ils ont offert à peu près le même montant que le parc Astérix, mais en donnant sur le coup... En faisant moins d'investissements à long terme, en donnant sur le coup...
Et plus de cash.
Plus de cash. Et on voit 23 ans plus tard ce que ça donne. Le parc est presque rouillé de partout, alors qu'avec Astérix, on serait encore dans l'investissement. Tu vois, très mauvais move de la part de la ville de Montréal, à mon avis. Et puis là, c'est un parc américain qui a pas d'âme, vraiment. Tout ce qu'ils veulent, c'est de vendre la pizza puis du
ben oui, c'est ça.
Alors que tout le volet théâtral, spectacle interactif, le volet immersif. Et puis aussi, on s'était dit que les Américains ou les Canadiens anglais qui viendraient à Montréal auraient pas de référent avec Astérix. Ben justement, c'est long. Pourquoi ne pas leur faire découvrir ce référent de village gaulois en étant au Québec? Je vois pas le problème. Je veux dire, à la limite... Un Vietnamien qui est de passage à Paris va aller au parc Astérix, il sait pas plus c'est qui, puis il l'apprend, c'est tout. On peut être dans le partage de nos spécificités plutôt que de toujours vouloir, pour une question de cash, jouer la pute et finalement se embrasser le dénominateur commun qui fait en sorte qu'on n'a plus de saveur parce qu'on veut faire plus de cash puis rejoindre. Ça, c'est comme du home staging, pour vendre ta maison, tu la mets beige et gris pâle. Fait qu'elle dépasse de nulle part. Elle est rendue drabe, mais tu as plus de chances de la vendre parce que tu t'adresses à la masse. Moi, ça m'énerve, là, cette espèce de... Bon, c'est un autre débat. Tu vois, je vais faire une petite...
On arrive à la fin de cette émission. Il me reste deux petites questions assez courtes, tu vas voir.
Vas-y.
J'ai lu tout le bouquin. Astérix chez les Québécois, tu réponds à énormément de questions. On n'en a que effleuré quelques-unes au cours de ce balado. Je vous conseille vraiment d'aller vous procurer le bouquin. Vous aurez toutes les références, les liens sur le site et en commentaire de l'épisode, comme d'habitude. Mais une question à laquelle tu réponds pas, c'est quoi ton album préféré d'Astérix?
Ah oui, hein, je n'y réponds pas parce que j'ai trop de difficultés à... à y répondre. J'aime beaucoup Gladiateur, j'aime beaucoup Le Devin, mais il me faisait peur quand j'étais petit.
Ah, il faisait peur, moi aussi il me faisait peur.
Oui, et plus tard j'ai compris le rapport avec, c'est la peur de l'autre, c'est la peur de la différence, c'est de la peur. C'est intéressant de le relire avec nos yeux d'adulte. Lequel j'ai bien aimé aussi, on parle vraiment de l'époque, j'aime bien ceux des années 70 en fait. Là, donc quand graphiquement, quand Obélix était plus rond, plus trapu. Mmh. Quand Astérix avait une dent, une petite dent quand il ouvrait la bouche, parce que la dent a disparu, puis elle vient de revenir il n'y a pas longtemps. C'est des détails que je...
Ah, c'est des détails. Toi, tu vois ça, voilà. Là, on voit le BDiste. Hein.
C'est ça. Il y avait une petite dent, là, qui quand il riait, puis après, la dent est partie. Puis à un moment donné, la tête d'Obélix est devenue graphiquement trop petite par rapport au corps. On n'a qu'à regarder la couverture de l'Odyssée d'Astérix, ça n'a aucun sens. Alors que si on compare avec, je sais pas moi, le Tour de Gaulle, on voit bien la proportion qui a complètement changé, puis je préférais l'espèce de personnage trapu. Le Tour de Gaulle, j'aimais beaucoup les lauriers de César. Tu vois, je t'en nomme plein, mais on parle vraiment de ceux des années 70. Le Tour de Gaulle, c'est fin 60 ou mi-60, mais ceux des années 70, tu vois. Puis moi... J'aimais pas la Grande Traversée beaucoup. On a un regard nord-américain sur la Grande Traversée. Mmh. Avec un rapport avec les Autochtones qui est complètement différent de celui du français. Je le trouvais beaucoup plus caricatural. D'ailleurs, il y a même une erreur soulignée dans mon livre. Oui. C'est que le totem qu'on...
n'est pas bon.
C'est ça, le totem qu'on fait pour célébrer les Gaulois à la toute fin du livre, c'est un totem qui correspond à l'Ouest canadien. À ceux qu'on faisait aux communautés autochtones et des Premières Nations de l'Ouest et non de l'Est. Et comme il a traversé l'Atlantique, techniquement, ben là, c'est un détail, c'est rigolo, tu sais, c'est pas une grande faute, on est d'accord, on est dans le...
Mais si non, mais quand même.
Oui, un peu by the book, comme on dit, ben, c'est pas le bon totem, on n'est pas dans le bon bout du pays, puis on oublie. Le pays est tellement grand, tu sais, quand je parle des montagnes françaises, les gens me disent, ben, pourtant, t'as des montagnes, toi, t'as des rocheuses. Oui, mais les rocheuses sont plus loin de Montréal que Paris, puisque le pays est plus large que l'océan Atlantique.
Ouais, c'est ça.
Notre fameux rapport avec les distances. Hein,
oui, c'est effectivement pas tout à fait le même. La toute dernière question pour toi, mais tu l'as un petit peu effleuré au cours de cet enregistrement, comme tu fournis sans arrêt de projets, de nouveaux livres, d'émissions, de choses, c'est quoi tes prochains projets?
Ah, il y a plein de choses. Il y a bien sûr mes BD. Là, je prépare Zombie Band pour les enfants avec un collègue... François qui fait les textes et ça sera une BD d'animaux zombies en tournée mondiale. Je prépare d'autres. Il y a un jeu dessiné, c'est facile, qui s'inspire de mes cahiers qui fonctionnent bien. J'ai Québec 90 qui sort en octobre avec Ghislain Tachereau, mon collègue qui... Écoute, ça va être génial ce truc-là. Et je prépare le jeu Québec 80. 500 questions pour vos parties. Un beau boîtier. Et bien sûr, l'an prochain, j'ai La Chasse aux biscuits, un conte pour les tout-petits que je n'ai pas illustré, mais que j'ai écrit, qui va parler du souci d'éthique, du conflit d'éthique chez les tout-jeunes. Et puis, j'ai bien sûr l'an prochain Le Québec merveilleux de Walt Disney, quand Mickey
charmait
la belle province. Ça, c'est dans un an et demi, c'est dans le même esprit qu'Astérix et Tintin. Je vais terminer la trilogie. Je ferai pas les Schtroumpfs, Boulébé, les Spirou après ça. Il y a Tintin, Astérix et Disney. Au-delà de ça, sur le plan de l'influence québécoise, oui, ça s'arrête là. Mais il y aura sûrement d'autres beaux projets. Je pense que jusqu'à la fin, je ferai des livres où je marie la culture populaire, notre histoire collective, mon amour du ludique, du récréatif et de la BD. Parce qu'en plus, c'est un créneau qui n'a pas été utilisé tant que ça. Il y a pas, ce créneau-là de parler de nous à travers la BD, en tout cas du moins au Québec, je ne dis pas que je suis le seul et que personne ne peut le faire, mais il n'a pas été très... j'ai trouvé ma signature. Je le dis sans prétention, mais j'ai trouvé un peu ma formule, la signature qui me va bien, avec laquelle je suis bien et que les gens semblent apprécier. Alors bon, continuons.
Et que tu nourris bien, sans aucun doute, puisque, bah, chers amis, vous qui nous écoutez, vous aurez aussi compris que visiblement, il y a une temporalité un petit peu différente au Québec, puisque les journées doivent faire bien plus que 24 heures, vu le nombre de projets qui tapent. C'est assez impressionnant. Tristan, je te remercie énormément pour tout ce temps. Astérix chez les Québécois, chez Heurtebise, franchement, c'est vachement bien. Et rien que pour ça, moi, je te remercie pour toutes les choses que j'ai apprises. C'était vraiment super.
Ben, merci à toi. Tant mieux si le projet, si le livre résonne comme ça, il traverse le temps, les années.
Je te confirme qu'il résonne et il permet, paradoxalement, cette icône française, franchouillarde, bretonne, normande, on le place où on veut, résonne tellement bien au Québec. On en apprend tellement et on comprend tellement mieux les Québécois, grâce à Uderzo, grâce à Gussoni, et puis pour le coup, un petit peu aussi grâce à toi. Merci beaucoup, Tristan.
Merci, c'est très généreux de ta part. Merci à toi, merci à tout le monde.
À bientôt, ciao.
Salut.
Et voilà, Fais-tu frette, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous êtes arrivé jusque-là, bravo, vous avez vraiment toute mon admiration. Mais bon, c'est probablement parce que cela vous a plu au moins un petit peu. Ou que vous êtes alors complètement maso. Bah, par défaut, j'opte quand même pour la première hypothèse. On va dire que c'est mon côté optimiste. Alors s'il vous plaît, rendez-moi service. Partagez ce podcast, parlez-en à vos amis, abonnez-vous et surtout, surtout, donnez-lui une note. Alors juste pour info, même si ce programme reste évidemment très perfectible, inutile de mettre un 3 ou un 4 sur 5. Au royaume d'Apple et consorts, il n'y a que le 5 sur 5 qui compte. Eh oui, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Alors je compte sur vous. Pour le reste, vous trouverez tous les liens, les références vers les livres, les spectacles, les programmes et que sais-je dont on a pu parler au cours de cette émission et même ceux dont on n'a pas parlé mais qui me semblent intéressants. Tout ça, vous le trouverez dans le descriptif, dans les commentaires de ce podcast ou bien alors sur notre site internet faitufrette.com. Sur ce même site, vous avez d'ores et déjà la possibilité de vous inscrire à l'indispensable newsletter hebdomadaire que nous vous préparons et qui sera lancé très prochainement. Et j'y annoncerai les prochaines émissions et partagerai avec vous des articles, des infos, des bons plans qui pourraient bien nourrir votre curiosité à propos du Québec. Enfin justement, puisque vous êtes curieux, je suis sûr que vous avez des questions, des suggestions, que vous aimeriez qu'on traite tel ou tel sujet. Eh bien, je ne demande qu'à vous lire. Envoyez-moi un courriel. Oui, j'ai bien dit courriel. Envoyez-moi un courriel à l'adresse suivante. Fais-tu frette, en un seul mot, tout attaché, sans espace, sans tirer ou quoi que ce soit. Donc, fais-tu frette à commercial. Ah oui, j'ai oublié aussi. Ici, on ne dit pas at ou arrobase, on dit à commercial. gmail.com. Bah, j'avoue que c'était pas très clair tout ça. On récapépète depuis le début, vous allez voir, c'est très simple. Fais-tu frette, FAISTUFRE2TE, à commercial, gmail.com. Pas compliqué. Vous vous souvenez qu'au tout début de cette émission, je vous ai dit qu'au Québec, on ne disait pas bonjour, mais bon matin. Et pour cause, car ici, pour se dire au revoir, on se souhaite de passer un bon jour. Alors bonjour à tous et à tantôt.
Softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.